Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Il est 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes de l'économie avec nous. Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Erwan Tizon, directeur des études à l'Institut Sapiens. Bonjour Erwan. Le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Voilà ce que disait hier soir Emmanuel Macron sur TF1, venu défendre l'accord trouvé hier matin, tôt. Vous savez, l'accord de 750 milliards d'euros pour la relance. 24 heures après la conclusion de cet accord, vous avez évidemment un petit peu digéré. Tiens Nicolas, les mots sont forts du président de la République. Ils sont justifiés ou est-ce qu'on survend un petit peu cet accord?
Alors je pense qu'on le survend un peu, mais en même temps, si j'étais à la place du président de la République, je le survendrais aussi pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un effort quand même de négociation absolument colossal qui n'a pas commencé il y a 4 jours en réalité, mais qui a commencé quasiment au début de la crise avec les efforts importants qui ont été faits. Dans ce sens aussi du ministre de l'économie et de son équipe, puisque les négociations se sont dans un premier temps déroulé au niveau ministériel, donc c'est un effort colossal avec un vrai résultat assez original dans la mesure où, pour une fois, ce sont plutôt nos partenaires allemands qui se sont progressivement rangés à la position française.
Bon. Bien sûr. Donc, en levant le tabou justement de l'endettement global.
Exactement.
Pour les 27.
Donc de ce point de vue-là, évidemment, le président de la République a toutes les raisons d'être satisfait. Et la deuxième chose, c'est que même si en réalité on communique beaucoup sur les montants, mais les montants sont pas si importants que ça. Ce qui est très important, c'est le fait que et là, le président de la République a raison, l'Union européenne change en fin de nature. C'est-à-dire qu'on va vers... Alors, le terme effraie un peu. Moi, il ne me gêne pas, mais ce qu'on appelle le saut fédéral...
C'est le fédéralisme.
Moi, il ne me gêne pas du tout sur le plan idéologique, mais je sais qu'il choque beaucoup de nos concitoyens. Mais en tout cas, c'est l'idée selon laquelle la Commission européenne a désormais un outil financier en son nom, ce qui permet d'éviter tout ce qui est règle de l'unanimité, etc. Donc là, il y a, oui, très honnêtement, un vrai changement.
Erwan Tizon.
Moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Nicolas. Au-delà des chiffres et de la bataille des montants, qui est au final le seul os à ronger pour l'opposition aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est le pas politique qui a été fait. Ça fait des années que l'Europe est à l'arrêt. Ça fait des années justement qu'on n'arrive pas à mettre en place des projets communs. Le fait de se doter d'un outil fiscal est presque budgétaire, parce que ce qui va arriver demain, c'est un budget commun qui sera au-delà du 1%. Je rappelle le rapport McDougall 1977, pour que l'Union européenne, dans sa mouture actuelle, fonctionne, 5 à 7% du PIB de la zone. On commence à y tendre, c'est une victoire. Le problème de l'Europe, c'est que c'est des petits pas. Là, on a fait un demi-cloche-pied, on arrive en avant et peut-être qu'on va enfin déboucher vers une Europe un peu plus efficace.
Alors malgré tout, c'est vrai, et le président de la République évoquait donc ce financement spécifique, cet outil financier, fédéral ou pas, peu importe. Trois taxes sont actuellement à l'étude. Une taxe sur le plastique non recyclé, la fameuse taxe sur les géants du numérique, la fameuse taxe GAFA, et puis une taxe carbone qui renchérirait les produits importés de je ne sais où, d'Inde, de Chine, qui sont un peu polluants. C'est pas pour maintenant quand même toutes ces taxes. C'est faisable ou pas de faire ces taxes, Erwan Tizon, Nicolas Bouzou, Erwan.
Il y a trois mois, on aurait dit que c'était infaisable de réussir à faire un prêt commun ou justement ce qui a été fait ce week-end. Donc moi, je pense que c'est totalement faisable. Ouais. Je rajouterais même une quatrième, voire une cinquième taxe. Une quatrième taxe, à quoi vont servir la plupart des plans de relance, notamment à assurer le redémarrage et à assurer aussi les plans de soutien à l'emploi. C'était le projet SURE qui avait été lancé justement au mois de mars par l'Union européenne. On pourrait imaginer que ces budgets européens soient abondés aussi par une part des cotisations sociales de tous les actifs européens pour créer un véritable mécanisme d'assurance et de réassurance chômage. Donc quelque part, on a crevé un tel abcès ce week-end qu'on se dit qu'en fait derrière il va y avoir vraiment une déferlante. Et je pense que ces trois taxes-là, on va les avoir dans les quelques mois qui viennent.
D'accord. Alors j'étais un petit peu pessimiste, peut-être, Nicolas.
Non, mais regardez l'histoire de la taxe carbone. Si on se remet dans le contexte de la précédente commission, on évoquait déjà la taxe carbone, mais c'était plutôt un débat, je dirais, d'économistes, d'experts, et ça semblait politiquement absolument infaisable. Et de toute façon, la précédente commission n'était pas très encline à avancer sur cette taxe carbone. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie des sujets qui sont pris à bras-le-corps par la nouvelle commission et dont on peut penser raisonnablement que ça va se faire. Alors, bien évidemment, ça se fait aussi beaucoup sous la pression de la demande écologique des populations telle qu'elle s'exprime à travers les élections, mais ça, c'est parfaitement logique et normal. Et donc, je suis là aussi d'accord avec Erwan. Je pense que les choses peuvent avancer relativement rapidement. Mais en revanche, Fabrice, c'était le départ de votre question, il y a quand même un danger qui est celui de survendre ces accords. C'est-à-dire que l'Union européenne, moi j'ai un engagement européen très fort depuis longtemps, mais je sais aussi qu'on a toujours survendu survendu l'Union européenne. On a survendu le traité de Maastricht. On a survendu l'euro. J'ai regardé récemment, j'ai revu un certain nombre de débats qui avaient eu lieu à cette époque. On nous proposait vraiment le paradis sur terre. C'est absolument stupéfiant. Et donc après, il faut pas s'étonner qu'il y ait aussi une réaction de méfiance de la part des opinions publiques. Et le petit danger que je vois, c'est que, notamment suite à l'intervention du président de la République hier soir, qui je pense était très très fatigué aussi et d'une certaine façon un peu exalté.
On comprend. Et
évidemment, on le comprend, mais du coup, voilà, ce danger, me semble-t-il, existe.
L'économie, justement, la relance. Moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé. Je vous le soumets. C'est encore un mois de juin record pour la collecte du livret A, presque 3 milliards. C'est moins que avril et mai, parce qu'on avait des volumes de 5 et 7 milliards, malgré une baisse du taux. Hein. On est à 0,5%, enfin c'est ridicule, ouais. Très bien. On sait que les Français ont épargné pendant le confinement. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur épargne considérable accumulée pendant le confinement? Est-ce que c'est une clé ou pas de la relance économique? Erwan Tizan, Sapiens.
C'est totalement une clé. L'OFCE et la Banque de France nous disent que l'épargne de précaution pendant le confinement, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc on est à plus de 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça peut permettre justement d'être la clé de la relance. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement en leur rendant confiance. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut que leurs adaptations personnel soit totalement en accord avec les politiques publiques déployées. Tout simplement, c'est-à-dire que ceux qui sont dans des grandes entreprises, ceux qui sont artisans, ceux qui sont au chômage ou quoi que ce soit, aient l'impression que malgré qu'il y ait un retournement de conjoncture, qui est celui qui va arriver au mois de septembre, ils puissent conserver un pouvoir d'achat, ils puissent conserver en tout cas les moyens de consommer, puis le moyen de se loger, le moyen de se vêtir. Donc, c'est-à-dire que cette épargne-là ne leur servira pas comme bouclier personnel, mais bien que l'État ou leur entreprise soit là justement pour leur assurer cette continuité-là. Et ça, c'est tout l'enjeu. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver justement à flécher cette épargne-là vers la plupart des fonds propres des entreprises. Et là, c'est un vrai enjeu, on en parle depuis très très longtemps, on parle quand même de l'épargne des Français dans tout ce qui est non coté, c'est plus de 600 milliards d'euros. Donc là, il y a un vrai enjeu pour toutes ces petites entreprises qui ont besoin de cash, qui ont besoin de fonds propres. Et là, c'est peut-être au gouvernement de lancer des nouveaux outils fiscaux plus transparents pour faire en sorte que chaque ménage devienne tout simplement actionnaire d'une entreprise pas très loin de chez lui, pour ainsi le réconcilier non seulement avec l'idée de capitalisme, mais surtout pour aider la petite boîte à côté, plutôt que justement que ça dorme sur un livret A ou sous un matelas.
Il va falloir raconter des belles histoires, justement, pour que les Français mettent l'argent dans leurs entreprises, Erwan Tizan.
Il va falloir raconter des histoires, mais je pense que si vous mettez en place de la simplicité, de la transparence, et surtout cette petite fibre de dire mon argent, plutôt que de mettre sur un compte non rémunéré, va profiter à la boîte en bas de chez moi, dont je vois le patron, et je peux l'aider en cette difficulté, je pense que tout le monde est prêt à l'entendre.
Le retour de la proximité, voilà, c'était l'une des valeurs donc de cette crise. Peut-être appliquer justement avec ce conseil que nous donne Erwan Tizan. Nicolas Bouzou, les Français, ils vont utiliser cette épargne pour dépenser ou se préparer à des jours difficiles?
Alors pour l'instant, on a vu après le déconfinement que la consommation remontait très vite, et en fait plus vite que ce qu'on pouvait anticiper, parce que la situation sanitaire elle-même s'améliorait plus vite que ce qu'on pouvait anticiper. Et là on voit que les choses commencent à se compliquer un peu et que dans la plupart des secteurs, on n'a pas retrouvé les niveaux de consommation qu'on avait avant la crise. Donc cette épargne qui était une épargne forcée, c'est quand même partiellement transformée en épargne de précaution. Alors on peut soit en effet imaginer que les Français consomment davantage, donc ça c'est éventuellement possible si on a un très bon plan de relance, mais le plan de relance il sera annoncé à la fin du mois, enfin on commencera à en discuter à la fin du mois d'août et en fait il sera annoncé complètement à la fin du mois de septembre et il sera mis en place en 2021, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qui a plutôt ma préférence, c'est ce que disait Erwan, c'est-à-dire qu'on mette en place des outils qui permettent de canaliser cette épargne vers les entreprises, notamment celles qui se sont surendettées, beaucoup endettées avec les prêts garantis par l'État, les fameux le PGE,
qu'il faudra rembourser un jour.
Et peut-être même transformer en fonds propres.
En fonds propres, tout simplement. Voilà, vous restez avec nous, avec les spécialistes de l'économie, Nicolas Bouzou, Erwan Tizan. Dans un instant, autre question, comment la 5G va-t-elle venir au secours de notre système de santé un petit peu rigide? Vous le savez, il y avait les conclusions hier par le ministre Olivier Véran de ce Ségur de la santé. 7h48, à tout de suite.
Dans un monde de plus en plus incertain, mieux vaut confier ses investissements à un expert de la gestion d'actifs. Chez Covéa Finance, nous gardons le cap avec un engagement. Répondre au mieux aux objectifs de nos clients et les accompagner sur le long terme dans un monde en pleine mutation. Covéa Finance, la société de gestion engagée à vos côtés. Retrouvez-nous sur covéa-finance.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Là, tu vois tout en bas, ce sont les pyramides de Gizeh.
Wow.
C'est l'un des rares monuments visibles depuis l'espace.
Et là, c'est quoi cette chose énorme?
Je sais pas, on dirait une sorte de message.
En ce moment, Skoda vous offre jusqu'à 6000 euros d'avantages clients pour l'achat d'un SUV.
Forcément, une offre Skoda aussi spectaculaire, ça ne passe pas inaperçu.
Jusqu'à 6 000 euros pour toute commande d'un SUV neuf de la gamme SUV Skoda avant le 31 juillet 2020, immatriculé sur la même période. Offre à particulier, voir skoda.fr.
Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
7h49, nos spécialistes de l'économie ce matin. Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès et organisateur des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël au mois de novembre. Oui. Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Alors, la crise du Covid, elle a démontré l'importance d'allouer de bonnes ressources au secteur de la santé. Hier, d'ailleurs, Olivier Véran clôturait la concertation du Ségur avec une trentaine de mesures pour casser les rigidités actuelles. Question ce matin, et si la 5G, c'était une arme efficace aussi ? Tiens, ben, le Parisien fait ça une ce matin. Faut-il avoir peur de la 5G ? Bon, les premières offres commerciales vont arriver à la fin de l'année. Vous, à l'Institut Sapiens, Erwan Tison, vous avez pris l'exemple de la santé. Et dans une étude que vous présentez ce matin, donc ici même, à Radio Classique, vous nous dites « Cette technologie, elle va permettre un accès aux soins renforcés, un suivi des patients amélioré et une médecine personnalisée. Comment ?»
Tout à fait. La trois caractéristiques de la 5G, c'est qu'elle a un temps de latence quasiment nul. Donc en fait, elle permet de rapprocher l'ordre de l'exécution. Ensuite, elle permet de connecter jusqu'à 10 fois plus d'objets au kilomètre carré. Et surtout, elle permet un transfert de données beaucoup plus important, sans perte justement de données. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de ça, on va pouvoir déployer trois choses. Premièrement, c'est tous les objets connectés justement dont on entend parler, qui peuvent fonctionner aujourd'hui avec la 4G, mais dont l'utilisation sera optimisée avec la 5G. Donc en fait, on pourra avoir votre profil biologique et médical en temps réel. Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre tout simplement de développer une médecine personnalisée. Donc on va passer à une médecine d'agence qui est aujourd'hui basée sur des statistiques, sur des cohortes, à une médecine personnalisée où le traitement que vous allez recevoir sera en accord parfait avec votre profil sanitaire. Deuxièmement, le faible taux de latence va permettre du coup de faire des opérations à distance. Ça peut permettre d'être un gadget, mais quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le chirurgien nécessaire pour telle et telle opération, vous pouvez demander la compétence traître qui soit beaucoup plus éloignée.
Faire une échographie à distance.
Exactement, faire une radio des poumons, faire toute la télémédecine, tout justement cette médecine qui est déterritorialisée. On parlera plus de déserts médicaux. Demain, il suffira d'implanter une petite cabine télé connectée justement 5G pour permettre justement tous ces arrangements-là.
Parce que ce que vous dites, voilà, on s'affranchit comme ça des limites géographiques et les territoires vont être irrigués de manière homogène en services médicaux. Voilà.
Tout à fait. On s'affranchit des distances physiques, on s'affranchit des distances géographiques et donc du coup, la médecine, ce n'est plus au patient d'aller vers le médecin, c'est la médecine qui vient directement vers le patient. Il vous suffira d'un smartphone ou d'un objet connecté pour justement avoir tous ces outils-là. Dernier point, c'est aussi toute la recherche qui pourra être améliorée. Le grand transfert de données, on l'a vu pendant la crise du Covid, a permis des réunions en temps réel et des essais cliniques en temps réel entre des équipes qui étaient parfois basées à Chicago, à Pékin et en Italie. Donc, en instantané, pouvoir justement améliorer la recherche. On n'est plus obligé d'attendre plusieurs semaines qu'un papier soit publié pour analyser les données. On peut mettre justement autour de la table tout un tas de panels et tout un tas de compétences qui autrement ne se voyaient pas. Donc la 5G, en plus d'être une technologie qui peut permettre de se faire plaisir dans les ascenseurs, comme même le dira certains,
ouais, alors,
malheureusement...
On va juste rappeler à quoi vous faites allusion, c'était le maire vert de Grenoble, hostile à la 5G, qui dit, oh, de toute façon, la 5G, ça ne sert qu'à regarder du porno dans les ascenseurs. Évidemment, chacun regarde du porno dans les ascenseurs,
tout à fait.
Comme chacun le sait.
Il faudra éviter de prendre l'ascenseur avec le maire de Grenoble. Ouais. Mais du coup, pour finir là-dessus, au-delà des caricatures, c'est une technologie qui peut nous faire vraiment rentrer dans un nouveau monde d'un point de vue médical, qui peut rationaliser drastiquement la pratique de la médecine, arrêter tous les soins qui sont non pertinents. Je rappelle, chaque année, c'est 40 milliards de soins qui sont justement non pertinents, qui sont pratiqués en France, tout en permettant d'accroître tout simplement la qualité des soins pour permettre que chaque profil ait le bon traitement au bon moment, au bon endroit.
Nicolas Bouzou, vous qui organisez justement les rencontres de l'avenir.
Et on parle de la santé notamment.
Et voilà.
Ça fait 15 ans que je travaille sur la santé parce que c'est dans ce domaine sans doute qu'il y a le plus d'innovation aujourd'hui. Innovation dans le domaine des médicaments, dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'imagerie. Erwan en a un peu parlé. On fait des progrès incroyables. Il faut voir ce que c'est aujourd'hui. Un scanner cérébral, ça se fait en une minute avec une vision de l'intérieur du crâne et du cerveau qui est sur des écrans avec des visions en 3D. Enfin, c'est quelque chose mais d'absolument exceptionnel. Donc on fait des progrès absolument extraordinaires. Ce sont des investissements qui sont très lourds pour les hôpitaux. C'est l'un des enjeux d'ailleurs de la réforme de l'hôpital en ce moment, parce que quand vous regardez le taux d'investissement des hôpitaux en France depuis 10-15 ans, il y a vraiment de quoi paniquer, parce qu'il y a une déconnexion en fait entre ce qu'on pourrait faire et ce que l'on fait faute de moyens. Et donc cet enjeu de la 5G, il est absolument central, parce que la 5G, c'est ce qui va permettre à toutes ces technologies d'être coordonnées entre elles, mais aussi de coordonner l'hôpital et la médecine de ville. On l'a vu encore pendant la crise, on a vraiment une articulation de la donc la médecine de ville, c'est les médecins généralistes, les spécialistes. On a une articulation entre médecine de ville et médecine hospitalière qui a quasiment pas changé depuis 100 ans. C'est-à-dire que quand un médecin généraliste doit envoyer quelqu'un pour cause de Covid à l'hôpital, il doit chercher lui-même l'hôpital, est-ce qu'il a des lits, passer un coup de fil à la secrétaire du médecin, etc. Donc on est dans quelque chose qui fonctionne pas du tout, et ça on peut considérablement l'améliorer grâce à la technologie. Donc cet enjeu d'investissement, et vous voyez, en plus c'est passionnant, je trouve, sur le plan du storytelling, parce que c'est un moyen de montrer aux gens que la technologie, ça peut être concret et facteur de progrès.
Tout juste, merci d'être venu. C'était passionnant.
Merci
encore
vous.
Une fois, Nicolas Bouzou, Asterès, organisateur des Rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, Erwan Tisonde, qui a signé donc cette étude pour l'Institut Sapiens, donc les vertus de la 5G pour la santé. Merci à tous les deux. 7h54 sur Radio Classique.